France Musique.
L'âme sœur. L'histoire de Nathalie Bauer-Lechner et de Gustav Mahler. Un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano. Épisode 4, Quatuor de dames.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'âme sœur. Nous avons laissé Nathalie Bauer-Lechner à l'aube d'une carrière nouvelle au sein du Quatuor Soldatröger, formé en 1895. Elle tient la partie d'alto. Nathalie a 35 ans et à défaut de la première jeunesse, elle jouit d'une santé robuste qui éclate dans ses traits réguliers, sa taille souple, son épaisse chevelure. Une impression de calme, de solidité souriante émane d'elle. Grande, plutôt charpentée, elle est vêtue le plus souvent de jupes fluides de couleur claire, de chemisiers à col montant et manches gigots, serrés au poignet et ornés d'un jabot de dentelle. Nathalie Bauer-Lechner accorde une grande importance au corps des femmes et à leur habillement. Ennemie du corset qui les étouffe, des bottines à talons, des vêtements trop ajustés, elle milite pour l'aisance des mouvements entravés par la mode de l'époque. Elle-même, comme George Sand ou la peintre Rosa Bonheur, n'hésite pas à porter le pantalon. Sa philosophie de la vie forme un tout qui a pour but la liberté. Son indépendance est bien loin de séduire Gustav Mahler, qui prend à témoin sa sœur Justine.
Quel genre de bénédiction a-t-elle gagné avec sa liberté? Ce sont des articles de foi bien risqués sur lesquels elle a basé son existence. Il me semble à moi qu'ils sont branlants de partout et que ce sera de pire en pire.
On n'étudiait pas l'alto au conservatoire à l'époque où Nathalie a fait ses études. Sa formation est donc celle d'une violoniste et tout laisse à penser qu'elle a continué à jouer des deux instruments. L'alto est alors un peu méconnu. Il fait le lien entre le violon et le violoncelle. Il est l'instrument de la médiation, du rapprochement. Il correspond très bien à Nathalie Bauer-Lechner. Le Quatuor Soldatröger porte le nom de sa fondatrice, Marie Soldat. Excellente pianiste depuis l'âge de 5 ans, elle apprend le violon à 9 ans, encouragée par son père. D'un milieu modeste, originaire de Graz, dans le sud de l'Autriche, Marie Soldat devient, grâce à son talent de musicienne, le soutien de sa famille à la mort de son père. Elle donne son premier concert à 12 ans. Mais c'est sa rencontre, adolescente, avec Johannes Brahms, alors en tournée, qui va miraculeusement transformer sa vie. Ébloui, il la recommande à son ami, le célèbre violoniste Josef Joachim, dont elle sera l'élève à Berlin. Elle fait ensuite une brillante carrière de soliste, devient l'amie de Clara Schumann, avec laquelle elle jouera notamment les Fantasiestücke de Robert Schumann. elle est surtout la première femme à interpréter en soliste le concerto pour violon de Brahms en 1885 à la Philharmonie de Vienne sous la direction de Hans Richter. Après une brève pause, à la suite de son mariage et de la naissance de son fils, Marie Soldat reprend ses nombreuses tournées, non sans s'être séparée à l'amiable de son mari, dont elle gardera le nom Röger. Sa célébrité de soliste deviendra telle que son portrait illustre une publicité pour le bouillon cube Liebig. C'est dire. Nathalie et Marie ont pu se rencontrer dans l'entourage de Brahms ou lors de concerts, par exemple chez les Wittgenstein, qu'elles fréquentent toutes les deux, comme Brahms et Mahler. L'aïeule, Fanny Wittgenstein, était la cousine de Joseph Joachim qu'elle avait adoptée. 7 pianos à queue permettent la tenue de nombreux concerts privés dans leur palais. Les 9 enfants Wittgenstein sont passionnés de musique. On se souvient que Paul, amputé d'un bras, sera le dédicataire du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Les liens entre Joseph Joachim et Marie Soldat les rapprochent des Wittgenstein chez lesquels des répétitions du quatuor auront souvent lieu. Le 11 mars 1895 se tient le premier concert du quatuor Soldatrüger dans la Bösendorfer-Saal, haut lieu de la musique de chambre à Vienne, installé dans l'ancien manège du palais Liechtenstein. Le 20 mars, elles sont sur scène dans la salle dorée du Musikverein avec le quatuor Rosé d'Arnold Rosé, le premier violon au philharmonique et futur époux de Justin Mahler. Le 1er avril, elle joue à nouveau à la Bösendorfer Saal. Le quatuor y sera invité très régulièrement, plusieurs fois par an, jusqu'à la destruction de ce lieu en 1913. Dans le monde d'hier, Stefan Zweig se souvient. Cette salle, écrit-il, avait la résonance d'un violon ancien. Elle était pour les amateurs de musique un lieu sanctifié, parce que Chopin et Brahms, Liszt et Rubinstein y avaient donné leur chef-d'œuvre et que nombre des plus grands quatuors y avaient été joués pour la première fois. En avril 1895, le quatuor opus 18 de Beethoven figure aussi au programme des quatre jeunes femmes.
Thank you.
quatuor de dames éveillent d'abord la curiosité. Puis, peu à peu, elles prennent une place de premier rang parmi les grands chambristes de l'époque, Rosé, Joachim ou Helmesberger. Leur répertoire classique, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Schubert, Brahms, va s'enrichir de musiciens contemporains tels que Labor ou Spohr, même s'ils resteront moins nombreux. Les concerts, les engagements vont se succéder non seulement à Vienne, à Berlin, à Hambourg, mais aussi à Prague, Trieste, Zagreb, en Hongrie, en Belgique, en Italie, en France et en Angleterre, où Marie Soldat a déjà fait plusieurs tournées, partout avec le même succès. Imaginez l'organisation complexe. Les contrats, les dates, les rémunérations dont s'occupe leur impresario, le même que celui de Gustav Mahler. Mais aussi la location des salles, les voyages, les hôtels, les robes, la presse. Marie Soldat gère tout ce qui relève de la logistique. Parallèlement, infatigable, elle se produit en soliste, comme à Paris en 1900 au Châtelet, pour les concerts colonnes, où elle interprète le concerto pour violon de Brahms. Dans le même programme, le pianiste Édouard Hessler, ami de Marcel Proust et modèle dans « À la recherche du temps perdu » de Charles Maurel, le jeune pianiste protégé par les vers du Rhin, joue le concerto en ut mineur de Mozart sur une cadence de Reinaldo Hahn, et la cantatrice Lili Lehmann chante Gluck, Massenet, et Wagner.
Je suis encore tout étourdi. Je suis encore tout engourdi.
J'en suis à mon premier voyage, chante Manon. C'est loin d'être le cas des musiciennes du Quatuor. De Paris, Marie Soldat rejoint ses compagnes dans le sud de la France. Elles vont se produire à Marseille, Nice, Toulouse, Monte-Carlo, puis Rome, Milan et Vienne à nouveau. À partir de 1898, Elise von Planck prend la place de la violoniste Ella Finger-Bailetti et la violoncelliste Leontine Gärtner, celle de Lucy Herbert Campbell, qui jouait déjà dans une première formation de Marie Soldat. Avec Marie, Nathalie sera la seule à assurer la continuité du quatuor jusqu'à la fin, pendant presque 20 ans. Ces quatre jeunes femmes éveillent le respect chez les critiques. Elles refusent de jouer le jeu de la séduction entraînante des orchestres féminins de divertissement très populaires à Vienne. Leurs robes sont élégantes, mais austères. Elles tiennent à être jugées sur la qualité de leur musique et non sur leur charme. Rien de féminin ou de sentimental dans l'interprétation des quatre dames, elles exercent leur talent avec énergie et une grande intelligence musicale, note un critique berlinois. Un autre remarque que l'harmonie la plus pure semble régner entre elles. Nathalie l'attribue à la douce autorité de Marie Soldat et remarque avec humour.
Le quatuor, c'est comme le mariage. En dépit de tous les antagonismes, il faut parvenir à l'harmonie et à la complétude la plus parfaite. Les bons mariages et les bons quatuors sont aussi rares les uns que les autres.
Il faut croire que les musiciennes y parviennent, car leur quatuor durera beaucoup plus longtemps que leur mariage.
N'oubliez pas pour autant que Nathalie Bauer-Lechner oublie Gustav Mahler. Elle continue à le rejoindre à Hambourg ou à Berlin, entre deux concerts, plusieurs fois par hiver. En 1896, par exemple, elle retrouve ses amies musiciennes à Berlin, dans la prestigieuse salle Bechstein, inaugurée par Hans von Bülow, quelques années auparavant. Les membres du quatuor Soldat Röger sont les premières femmes à y jouer. Dans ce décor blanc et or, éclairé à la lumière électrique, elle donne deux concerts devant une salle comble. C'est un triomphe. Mais Nathalie n'a qu'une hâte. Rentrer à Hambourg, chez Gustav. À ces concerts officiels, en quelque sorte, s'ajoutent des invitations privées chez des mécènes ou des industriels fortunés que Nathalie raconte avec humour. Ainsi, cette soirée privée chez un riche entrepreneur qui a fait fortune dans le guano. Pas de répétition, une foule d'invités bardés d'or et de décorations, mais qui ne prêtent guère attention aux musiciennes. Il n'en faut pas plus pour que, dès l'entracte, Nathalie range son alto dans son étui et s'en va retrouver Gustav. Ensemble, ils se promènent dans les rues du Vieux-Hambourg et au port. Durant ce séjour, elle l'accompagne aussi dans ses activités et décrit l'emploi du temps surchargé du chef d'orchestre de l'opéra qui excelle, entre autres, dans Mozart. Ce n'est que le 22 janvier 1896 que Mahler assiste pour la première fois à un concert du quatuor, presque un an après ses débuts. Il est enthousiaste. Selon lui, écrit Nathalie, aucun quatuor d'hommes ne peut rivaliser avec cette précision, ni avec une si merveilleuse harmonie dans les sonorités. Et chacune a le droit à son compliment. À Nathalie, il décerne le titre suprême de véritable enfant de son école et de son esprit. L'altiste, qui à aucun moment dans ses souvenirs ne fait état des très nombreux éloges des critiques internationaux, rapporte en détail les compliments de Gustav, les seuls qui comptent à ses yeux. Nathalie suit aussi les répétitions de Mahler à Berlin. Elle est profondément émue par sa première symphonie, le premier mouvement de la deuxième et les chants d'un compagnon errant. Mais à son grand désespoir, le public reste de marbre. Elle assiste aussi à la représentation de Norma où débute dans le rôle-titre une jeune cantatrice, Anna von Mildenburg.
Thank you.
Nathalie ne sait pas encore qu'une passion tumultueuse est en train de naître entre la future diva et le maestro, Anna von Miltenburg et Gustav. Plus tard, elle dira ne s'en être pas étonnée, mais en avoir souffert. Nathalie et Gustav, cependant, échangent des confidences sur leurs souffrances passées. Malheur conclu.
Nous sommes exactement pareils tous les deux. Ce que la vie nous apporte de pire ne nous brise pas.
Ils séjournent chez elle, Jasomir Gottstrasse, à Vienne, en juin 1896, et ils passent leurs dernières vacances à Steinbach am Attersee, où Mahler achève la troisième symphonie. En rentrant dans sa chambre, Nathalie trouve un jour sur sa table les esquisses du premier mouvement, accompagnées de ce mot de Mahler.
Le 28 juillet 1896 est arrivée cette chose étrange. J'ai pu offrir à mon amie Nathalie le noyau d'un arbre qui fleurit et grandit dans le monde, de toute sa taille, avec ses branches, ses feuilles et ses fruits.
Gustav Mahler n'a qu'un but, être engagé à l'Opéra de Vienne. Mais l'antisémitisme, de plus en plus virulent, rend la nomination d'un juif impossible.
Ni Vienne, ni Berlin, ni Dresde, ni Munich ne me sont ouvertes,
écrit-il à son ami Friedrich Schler. Le 23 février 1897, il se convertit. Deux mois plus tard, en avril, la nouvelle tombe. Herr Gustav Mahler est nommé Kapellmeister à l'Opéra de Vienne. De son côté, Nathalie reprend les tournées avec le Quatuor en Angleterre et à travers l'Europe. Les musiciennes ont ajouté à leur répertoire le quatuor pour piano en do majeur de Joseph Labor qui les accompagne. Ce pianiste aveugle est aussi un grand pédagogue et un compositeur. Il sera notamment le professeur de la jeune Alma Schindler. Le concert obtient des critiques enthousiastes qui saluent ce nouveau pas franchi par les jeunes femmes. Elles ajoutent aussi à leur répertoire le quintet avec clarinette de Karl Maria von Weber, alors rarement joué, et le quatuor pour clarinette, violoncelle et piano de Walter Rabl, dont c'est la première œuvre. Et surtout, elles interprètent avec Richard Mühlfeld le quintet pour clarinette de Johannes Brahms. Brahms, déjà très malade, assiste aux répétitions chez les Wittgenstein. Il meurt peu de temps après d'un cancer du foie.
Après des vacances d'été au Tyrol, les pas de Nathalie et de Gustav les conduisent l'année suivante à Bad Haussee, où Mahler compose le lied du Wunderhorn Revelge et le début de la quatrième symphonie. C'est ensuite un voyage à Venise où ils se promènent enchantés dans la Giudecca, préservés des touristes qui envahissent déjà la lagune. En les imaginant déambuler de nuit dans les ruelles, difficile de ne pas songer à Mort à Venise. On sait que la musique de Mahler accompagne les images de Luchino Visconti. On sait moins que Thomas Mann a explicitement pensé à Gustav Mahler en écrivant la nouvelle. Le héros porte son prénom. Visconti a accentué le trait, faisant de lui un compositeur et multipliant les allusions biographiques à Mahler. Si l'intimité de Nathalie et Gustav semble à son comble, il faut hélas ajouter que, durant ce voyage, une autre conquête du musicien est présente, la jeune coloratour Selma Kurz, avec laquelle il entretient une brève idylle. Nathalie semble considérer cette relation avec une certaine placidité. Le directeur de l'Opéra de Vienne est un homme très convoité. Thank you.
Je n'ai rien vu de plus beau depuis Brissago sur le lac majeur. Quand je sors sur ma véranda, je vois au loin le lac magiquement ridé de scintillements aux mille formes, qui oscille doucement sur l'ourlet de ses rives.
La quête d'un lieu à la fois beau et tranquille pour les prochaines vacances a conduit cette fois Justine et Nathalie sur le Wörthersee en Carinthie. Leur ravissement est tel qu'elles encouragent Mahler à faire construire une villa à Maiernigg. Une fois de plus, Nathalie paye de sa personne en surveillant les travaux entre deux tournées de concerts, comme ceux qui conduisent le quatuor à Krefeld. Tout l'enchante à Maiernigg, des forêts profondes au lac où elles se baignent chaque jour. Il est évident qu'elles se projettent dans leurs étés futurs. Après un séjour en compagnie de Justine et d'Arnold Rosé à Abbazia, où Mahler se rétablit d'une grave hémorragie intestinale, ils passent un nouvel été ensemble, cette fois à Maiernigg, dans la villa toute neuve. Les soirées sont consacrées à la musique. Nathalie joue avec le virtuose Arnold Rosé les duos pour deux violons de Louis Spohr. Dès leur arrivée, Mahler s'est mise à la composition de leaders qui prendront place dans le Wunderhorn, mais aussi des Rückertlieder et surtout les trois premiers chants des Kindertotenlieder.
Ils m'ont touchée comme ce que Gustav a composé de plus personnel, de plus émouvant,
écrit Nathalie, consciente de leur caractère tragique. Ces chants prennent un sens encore plus terrible quand on sait que quelques années plus tard, Puzzi, la petite fille de Mahler, mourra à 5 ans, ici même, à Maiernigg.
Thank you.
Mais en cet été 1901, l'ambiance est légère, idyllique même. Gustave et Nathalie ont repris leur baignade, leur conversation et leur promenade de jour comme de nuit.
Ravis comme des enfants, nous avons parcouru tous les endroits que nous aimions, tous les sentiers qui remontaient en serpentant et que nous voyons se former lentement dans les fourrés épais. Ensuite, nous avons quitté les ténèbres mystérieuses pour monter à la chambre de malheur qui était éclairée.
Dix ans se sont écoulés depuis leur première nuit d'amour à Berchtesgaden. Durant une dizaine de jours, en l'absence de Justine, ils retrouvent leur intimité amoureuse.
L'amour de Gustave pour moi a fleuri à nouveau,
écrit Nathalie. À propos de l'un des leaders de Rückert, Ich bin der Welt abhanden gekommen, je me suis retirée du monde, il lui confie.
C'est le sentiment qui est au bord des lèvres, mais qui ne les franchit jamais. C'est moi-même.
Comment Nathalie n'espérerait-elle pas un dénouement heureux, une vie enfin totalement partagée?
Es ist mir auch gar nicht.
C'était Quatuor de Dames, le quatrième épisode de L'âme sœur, l'histoire de Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler, un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano d'après son livre L'âme sœur aux éditions Stock. Un merci tout particulier à Charlotte Landru-Chandès et à Christophe Dillis qui ont prêté leur voix à Nathalie et à Gustav. Équipe de réalisation, Benjamin Vignal, Charlotte Landru-Chandès et Béatrice Trichet.
À réécouter sur francemusique.fr.